Seigneur, merci de nous encourager et ce qu'on a déjà entendu, merci d'être ce Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et oui, tu es un Dieu qui agit puissamment et tu es un Dieu aussi plein de grâce et de miséricorde qui est patient avec chacun d'entre nous. Merci de parler au cœur par ton Saint-Esprit, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours dans ce thème de la foi et j'aimerais nous encourager ce soir. On parlait la semaine dernière de ce verset d'Habacuc, où il est fait mention que le juste vivra par la foi. Et donc ma question c'est, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? Oh, je vais vivre par la foi, mais je crois. Qu'est-ce que je crois? Quelle est la substance de ma foi? N'est-ce pas? Donc l'exhortation que j'aimerais vous adresser ce soir, peut-être on n'aura pas le temps de tout voir, mais en tout cas, j'avais quatre objectifs principaux. Le premier, c'est de... que chacun d'entre vous, vous puissiez réaliser combien votre foi est précieuse et vitale. De prendre conscience aussi sur quoi elle s'appuie. Romains 10, 17, on ne développera pas trop ce point-là, mais si, enfin, on va le développer bien évidemment, mais pas dans les détails. Et puis, peut-être prendre aussi conscience de la profondeur de ce en quoi nous croyons. Parce que quelquefois, on peut dire la foi des chrétiens, c'est un peu simple. Pour ma part, ça fait bientôt 40 ans que je suis chrétien et ma foi grandit, ma connaissance de la parole de Dieu grandit, de la personne de Dieu grandit et ma foi s'étoffe et s'approfondit et c'est toute une vie avec Dieu qui normalement ça va être dans cette direction là. Alors il y a des hauts, il y a des bas, on est des êtres humains, je sais bien, et moi aussi, mais notre objectif c'est ça, c'est que notre foi s'étoffe, grandisse et que de plus en plus on ait confiance en notre Dieu. Donc, et un autre point aussi, le dernier, c'est que j'aimerais que vous sachiez pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Et je pense pas qu'à nos jeunes, je pense à tout le monde. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Et tout ça pour pouvoir donner, défendre ce que je crois, expliquer à quiconque me demandera raison de mon espérance. 1 Pierre 3,15. D'accord? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire que la foi semble être notre âge, voire même carrément impossible dans un monde qui se veut rationaliste, matérialiste, et c'est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, j'aimerais vous dire que tous les jours, on utilise la foi. Même ceux qui se disent « moi, je crois en rien ». Je vais vous donner juste un ou deux exemples, mais quand l'un d'entre vous, là, les jeunes qui vont à l'école, vous prenez le bus, hein, eh bien, j'aimerais vous dire que vous présupposez, vous croyez inconsciemment, un, que le chauffeur, il a son permis, et qu'il est... Eh oui, vous avez vérifié, vous lui demandez, t'as ton permis? Vous lui demandez pas, vous croyez qu'il a son permis, vous croyez, un deuxième point sur lui, c'est qu'il n'est pas sous drogue, il n'est pas alcoolisé et qu'il n'est pas, il n'a pas fumé quelque chose. Après, vous avez confiance aussi dans le mécanicien qui a entretenu le bus et que le bus dans lequel vous rentrez, il est fiable. Il ne va pas perdre une roue, il ne va pas exploser en route. Ensuite, vous avez aussi confiance dans les autres conducteurs qui vont aussi respecter le code de la route. À chaque fois qu'on prend la voiture d'ailleurs ou quand même on se déplace en ville. Et ensuite, vous avez confiance qu'il sera à l'heure quand vous allez à votre arrêt de bus et qu'il va vous conduire à l'heure aussi. Pour être à l'école ou pour aller là où vous allez. Donc, tout ça, c'est la foi. On ne la réalise pas, en fait. C'est la foi. Quand vous asseyez sur une chaise, qui a vérifié si sa chaise était solide ce soir avant de s'asseoir? Personne. C'est un acte de foi. Alors, vous me direz, oh, mais ça, c'est pratique, on peut comprendre. Hein. Quand vous allez à un rendez-vous, vous avez foi dans la personne qui vous a donné rendez-vous, le lieu, le moment. Enfin, si vous donnez un rendez-vous en Afrique, ce n'est pas les mêmes notions d'heure. Hein. À Nîmes, on a le quart d'heure, mais en Afrique, c'est l'heure. Quand vous achetez un matériel, vous regardez la notice d'utilisation, vous avez confiance que ce qu'ils vous disent, c'est pour bien faire fonctionner l'appareil que vous avez acheté, le matériel que vous venez d'acquérir. D'accord? Donc, on fonctionne par la foi, sans s'en rendre compte. Maintenant, deux points importants. Si quelqu'un maintenant vient vous révéler une information incroyable, c'est-à-dire presque dure à croire, incroyable, il y a deux choses qui vont dépendre si vous allez le croire ou pas. La première chose, c'est qui vous donne l'information? C'est la personne. Est-ce que cette personne, elle est digne de confiance? Hein, alors, si c'est un ami proche, et dont vous avez l'assurance de la probité, et de, voilà, que ce n'est pas un farfelu, et que même si l'information semble incroyable, ben, vous aurez tendance à lui faire confiance, à le croire. C'est... Maintenant, si c'est une personne, vous la connaissez, elle vient de Marseille, et elle vous raconte que la baleine est coincée dans le port de Marseille, vous allez lui dire, bon, peut-être. Non, mais qui vous dit la chose? Personne. Est-ce qu'elle est digne de confiance ou pas? Et après, ça dépend du sujet aussi. Parce qu'évidemment, s'il est farfelu et réaliste, évidemment, s'il vous raconte que c'est la marmotte qui plie le chocolat dans la tablette et qui... Non, vous ne vous rappelez pas cette publicité à une époque de Milka, la tablette Milka, c'était les marmottes qui... Vous savez pas ça? Bon. Non, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est, évidemment... Mais, donc ça dépend, le sujet, si c'est complètement farfelu, ou si... après, ça dépend aussi si, par rapport à ce que vous êtes prêt à croire ou ne pas croire. C'est-à-dire déjà les présupposés que vous avez déjà ancrés en vous par votre culture, par votre éducation, par votre expérience. Et puis, troisième point, si ça ne vous remet pas trop en question. Et lorsqu'on discute de Dieu ou des choses de Dieu... En fait, ça fait remonter à chacun d'entre nous, à chaque être humain, des présupposés forgés par notre expérience, notre connaissance, notre éducation, notre culture, notre époque. Les jeunes, ceux qui croient aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on croyait quand j'étais jeune, moi. Et si on remonte encore 50 ans en avant, ce n'est pas la même chose. Donc, pas simplement la culture, mais l'époque aussi à laquelle on est. En fait, l'objet de notre sujet, ça peut déranger dans un monde... L'objet de la foi en Dieu, ça dérange dans un monde où pourtant, il semble que plus rien ne soit tabou. Mais surtout, ça dérange quand on parle. Et quand on peut parler d'un Dieu ésotérique, la Terre, l'univers, hein, voilà. Où Dieu est partout, et dans tout le monde, et dans partout. Donc, non. Mais on parle, quand on parle de Dieu, de Jésus-Christ, de la Bible, là, il y a une réticence. D'accord? Et... si c'est quelqu'un qui est inconnu qui vous adresse le sujet et que le sujet ne convient pas, vous serez prompt à le repousser, hein, ou à changer de conversation. Si c'est votre meilleur ami qui vient aussi, peut-être, en qui vous avez confiance pourtant, hein, mais vous n'avez pas envie d'entendre de ce sujet, ben vous serez aussi détourner la conversation et parler d'autre chose, ou arrêter la conversation et partir. En fait, j'aimerais faire ressortir deux vérités. La première, c'est que par nature, l'homme... En fait, l'homme qui est rempli de lui-même, l'homme qui est en maîtrise de sa vie, en fait, il n'a pas envie d'entendre parler d'un Dieu auquel peut-être il devrait rendre des comptes. En réalité, c'est le péché qui est dans le cœur de chaque homme. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est rebelle à Dieu, par nature. Voilà, l'homme est pécheur, l'homme est séparé de Dieu, il ne veut pas entendre parler de lui. Et puis... si maintenant on veut aller dans une conversation, et c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, constructive sur le sujet de la foi, il est indispensable qu'il y ait ce fondement de la confiance réciproque. C'est-à-dire que quand on vient écouter la personne, on sait qu'elle va pas nous, elle n'est pas en train de nous manipuler, de nous utiliser, de nous endoctriner. Et puis, je pense aussi que c'est important qu'il y ait une prise de conscience d'humilité et de notre faiblesse. Prendre conscience qu'on n'est pas fort, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. On a besoin d'aide. On est des hommes pas toujours fiables, pas toujours solides, pas toujours même constants vis-à-vis de nos propres convictions. Des fois, quand elles sont chahutées, on peut... En fait, c'est pourquoi, pour permettre à Dieu et les gens avec qui on discute, de nous interpeller et de pouvoir questionner notre foi. Et je crois que je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à questionner sa foi souvent. C'est pas les grands dogmes, c'est comme ça, on le remet pas en question. Non, on questionne sa foi. On peut poser des questions. Et si on arrête de poser des questions, pense que notre foi, eh bien, elle commence à devenir un gros mammouth qui va finalement nous... on ne sait plus ce que c'est. On a besoin d'être alerte vis-à-vis de ça. Parce que, en vérité, on a tous une foi et on a tous des présupposés indémontrables. Je le dis souvent, mais nous, en tant que chrétiens, on croit que Dieu existe et que ce livre, la Bible, c'est sa parole. Mais on ne peut pas le démontrer, ça. C'est un acte de foi, n'est-ce pas? Alors, il y a des éléments, quand même, qui nous permettent de dire... évidemment, si on étudie, on se rend compte que ce qu'on croit, c'est pas juste l'idée de quelqu'un qui a pensé un truc la semaine dernière. C'est un livre qui a traversé les âges, c'est un livre qui a fondé nos sociétés, notre culture, qui a donné les valeurs de nos sociétés, qui est universel, qui est historique, enfin, qui a un fondement solide. C'est pas un livre aussi écrit par juste une personne qui avait une bonne idée, non. C'est des hommes qui ont écrit de la part de Dieu, d'ailleurs, et on verra ça un peu plus loin. Mais celui, de la même manière, celui qui croit, comme la plupart des hommes aujourd'hui dans nos sociétés, en tout cas quand on les interroge à première vue, parce que quand on gratte un peu, je ne suis pas sûr qu'ils croient vraiment ça. En fait, c'est ça la vérité. Mais on est endoctriné, on est aidé à penser du fait que l'idéologie principale de notre époque, de notre culture, parce que ce n'est pas comme ça dans tous les pays, c'est qu'on est juste un accident de la nature. D'accord ? On est juste le fruit du hasard, on n'est que des réactions chimiques. Mais j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas démontré non plus. C'est un acte de foi, c'est un présupposé, c'est la foi aussi. Et souvent, cette foi, elle s'appuie sur une fausse confiance dans la place de la science. Parce qu'elle a une idéologie, la science, aujourd'hui, elle n'est pas neutre. Et ce n'est pas son domaine, d'ailleurs. La métaphysique, ce n'est pas le domaine de la science. D'ailleurs, la science n'a pas démontré d'où on venait, ni ce qui se passe après la mort. On ne le sait toujours pas. Donc c'est par la foi, encore une fois. Mais quelle foi? Qu'est-ce que je crois? Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est d'échanger sur ce principe de la foi. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on s'appuie, notre foi ne s'appuie pas sur la personnalité de quelqu'un, sur les mérites de quelqu'un, sur la personnalité de quelqu'un, mais s'appuie sur ce livre qui est la parole de Dieu, et on va y revenir. Donc le premier point, je vous rappelle, c'est l'importance de la confiance, que voilà, on n'est pas... on a la possibilité de chacun... On est chacun encouragé à penser, en fait. Et à penser avec des éléments qui s'appuient, qui vont s'enraciner dans ce livre. Parce qu'on pense tous plein de choses, mais sur de quoi est nourrie notre pensée, n'est-ce pas? Et donc d'avoir cette confiance que on a une liberté, chacun, de penser ce qu'on a à penser, qu'on n'est pas des clones, et que chacun est responsable de ce qu'il choisit de penser, de ce qu'il choisit de croire. Alors c'est vrai que ce soir, on est dans une forme où c'est plus l'enseignement, et ce soir c'est moi-même qui le fais. Mais j'aimerais vous dire que chaque dimanche, on prend un moment qui s'appelle un temps de questions-réponses, dans lequel on a le droit de poser des questions, de questionner ce qui a été dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas compris, peut-être sur un point sur lequel on n'est pas d'accord, de confronter, de chercher à comprendre, peut-être de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Après, on verra que notre référence va revenir toujours, bien sûr, à la parole de Dieu. Donc le sujet c'est un sujet qui peut-être Dieu, sa parole, ce qu'il dit, ce qu'il révèle, ce qu'il peut-être ordonne, commande, propose. Quelquefois ça peut secouer nos libertés, ça peut déranger notre expérience, ça peut nous questionner sur nos convictions. Et j'aimerais vous dire à vous d'avoir vos convictions et de savoir où trouver ces convictions. D'accord, c'est pas le pasteur a dit, non, c'est qu'est-ce que moi je crois, et pourquoi je crois, et pourquoi est-ce que je crois ce que je crois, d'où ça vient que je crois ça, qui l'a dit, qui l'a pensé. Eh bien, on reviendra à ce point de départ, c'est qu'on croit qu'il y a un Dieu qui existe. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on s'approche de lui et on veut entendre ce qu'il a à dire, et ce qu'il nous a dit, c'est déjà écrit dans ce livre. Alors, Nous, on veut donner une chance à Dieu d'exister dans notre vie et de se révéler, de parler, de nous confronter peut-être et de nous bouger. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur ce livre, la Bible, qui est la révélation de Dieu. En fait, c'est ce qui nous donne une sécurité et qui me permet aujourd'hui de partager et de parler avec une autorité. Et cette autorité ne vient pas de ma personne ni de mon intégrité, bien que ces choses comptent, mais elle s'appuie sur l'élément essentiel qui est la parole de Dieu. Et que je ne vous raconte pas des histoires, je ne vous raconte pas mon histoire, je ne vous raconte pas mon point de vue, ça ne changera personne. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu nous a révélé, qu'est-ce que Dieu nous communique, n'est-ce pas? Et en fait, la parole de Dieu, c'est la révélation de la vérité et de la grâce, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu existe et c'est notre présupposé. Et donc ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de la vie, des mots, de la vérité, du sens et du but de toute vie. Voilà le présupposé que nous avons, que nous croyons. Il y a un Dieu qui existe et c'est lui qui est à l'origine de tout. D'accord ? Et en fait, ce Dieu, la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est un Dieu qui parle, qui a parlé. Et tellement il parle que même il se donne ce nom. Il est la parole. Vous connaissez ces textes dans Jean chapitre 1, verset 1, je vous le lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Dieu parle. Dieu se révèle. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est magnifique. Et ben voilà, parle, on écoute, éclaire-nous et on va voir. Verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres, c'est nous. Les ténèbres, c'est l'homme pécheur, c'est ce monde qui résiste, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas croire, qui veut croire à ce qu'il a envie, ce qui lui plaît, ce qui lui convient. Donc, si l'enseignement de la parole, c'est juste des impressions, ça s'appuie sur des impressions humaines, ça s'appuie sur des désirs humains, ou sur l'expérience seule de l'homme, ou encore ses élucubrations, voilà, on ne va pas loin, d'accord ? Nous, on s'appuie sur la foi de l'existence de Dieu et l'autorité de la communication qu'il a donnée à l'homme, sa parole. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie, ce que je raisonne, mais qu'est-ce que Dieu dit ? C'est important. Ma foi s'appuie, d'où vient la foi ? La foi dont Jésus nous encourage à connaître, à grandir, à découvrir, à étoffer, de croire en lui. Cette foi s'appuie sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu dans Romains chapitre 10 et verset 17. Alors, je n'ai pas le temps de faire un cours de bibliologie, mais si ça intéresse certaines personnes, je pense qu'il y a eu un temps de questions-réponses sur ça, sur l'inspiration des Écritures et la fiabilité des Écritures. Mais tout ça pour dire que les arguments concernant la fiabilité des Écritures sont écrasants. D'accord ? Et ceux qui pensent que la Bible est un livre inventé et trafiqué pour tromper les hommes n'ont fait aucune étude sérieuse sur la science des textes anciens. Et là, je parle de science. Je ne parle pas de... D'accord ? Je parle de science, de faits, de choses qui sont démontrables. Donc les textes que nous avons aujourd'hui sont fiables. C'est pas le temps de démontrer ça ou de développer ce point. Alors, trois présupposés. Vous êtes d'accord avec moi ? Enfin, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Le premier, c'est que Dieu existe. D'accord ? Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà, on croit que Dieu existe. Qui il est maintenant ? Est-ce que c'est un Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a une grande épée, qui envoie la foudre sur celui qui bronche, qui trébuche ? Qui c'est ce Dieu-là ? Bon. Il existe déjà. Ensuite, il parle, je veux le dire. D'autres textes qui sont intéressants, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous a parlé par des hommes dans l'Ancien Testament, et puis il nous a parlé dans le Nouveau Testament par le Fils, par Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas Jésus qui a écrit le Nouveau Testament, hein. Ce sont ses apôtres, ses disciples. Mais le Nouveau Testament parle de Jésus, n'est-ce pas ? Et puis, ensuite, le troisième point, c'est qu'on croit que cette révélation, on vient de le dire, est digne de confiance. Hein, c'est Jésus qui dira, en Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il nous encourage lui-même à croire en lui. Pourquoi ? Parce que s'il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est qu'on vit dans un monde où notre cœur peut être troublé, avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on vit, avec nos craintes, avec l'avenir, avec la mort devant nous. C'est quoi la vie ? Pourquoi je suis là ? Hein, toutes ces questions qui peuvent peut-être nous troubler. Et puis, il affirmera un peu plus loin au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui parle. Et il nous propose un chemin. Il nous propose la vérité dans un monde où chacun a sa vérité. Vous imaginez la confusion ? On est combien là ? Une trentaine ce soir ? Chacun en a notre vérité ? Et à mon avis, il y a beaucoup de mensonges dans tout ça. La vérité, aujourd'hui, elle existe. Vous savez pourquoi tout est relatif dans nos sociétés ? Et qu'il n'y a plus de vérité, que c'est chacun sa vérité ? Parce qu'il n'y a plus Dieu. Donc pourquoi ma vérité serait supérieure à la tienne ? Mais si Dieu est là, et le Créateur, il est la vérité. Et je peux dire, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, je veux... Oui, mais c'est la vérité. Point barre. D'accord ? Alors, des fois, elle ne nous plaît pas toujours, la vérité. Hein ? Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas la voir ou que je la rejette que ça la fait disparaître. N'est-ce pas ? Je peux vivre dans mon monde, je peux vivre en tant que le roi de mon monde, et puis à un moment donné, ça va se confronter au fait que je suis dans un autre monde où je ne suis pas le roi du monde. Et là, je suis confronté à quoi ? À la violence. Je suis obligé de me battre pour être le roi, de faire du mal à l'autre pour être le roi. Et puis, je me retrouve devant la loi et condamné à être en prison pour des crimes. Mais je ne comprends pas. C'était ma vérité. C'était moi le roi de mon monde. Donc, vous voyez bien que ça ne marche pas. Ça fonctionnait comme ça. Et donc, c'est comme ça que, parce qu'on s'attache à cette parole, à cette révélation, qu'on met notre confiance en cette révélation, que notre foi va trouver de la substance, va trouver une profondeur, va nous offrir d'avoir des convictions. Et pourquoi je vous parle tout ça ? Parce que chacun d'entre nous a une vie à vivre. On a un libre arbitre à gérer et à assumer. Pourquoi je fais ceci ? Pourquoi je ne fais pas cela ? Dans un monde où aujourd'hui presque tout est permis. Quand on dit non à quelqu'un, on dit non, non, mais c'est pas possible, tu peux pas me dire non à moi. Moi, j'ai ma vérité, ça me plaît pas que tu me dises non. Et vous imaginez, si on dit non à personne, comment on va vivre ensemble ? Rien que déjà dans une même famille. C'est impossible. Donc, tout ça pour dire que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il n'est pas si facile que ça à assumer. Et vous, je pense à nos jeunes gens, là, vous êtes sous la couverture de vos parents, mais de plus en plus, vous êtes confrontés à prendre vos décisions et à les assumer. Encore, si vous n'avez pas fait votre devoir, il ne faut pas aller se plaindre à papa, maman. Parce que vous avez fait autre chose, qui vous plaisait mieux. Mais vous avez des comptes à rendre au prof, à la note que vous aurez à votre devoir, n'est-ce pas ? Mais ça, on ne veut plus trop entendre parler de ça, n'est-ce pas ? Et ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, la parole, quand on la croit, quand on l'accepte, quand on mélange la foi à ce qu'on entend, eh bien, elle devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comment conduire sa vie ? C'est la question que le psalmiste se pose au psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Ben, en se dirigeant d'après ta parole. Vous savez, quand la parole de Dieu est là, ben, elle donne un cadre, elle donne des convictions, elle donne des bornes. des bornes qui nous protègent aussi de la folie qui est en nous, du péché qui est en nous. Alors, on n'a pas toujours envie de l'entendre, mais c'est ça l'éducation. Vous imaginez si vos parents vous avaient jamais dit non. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu vas à l'école si tu veux. Il y en a beaucoup qui seraient encore à l'école aujourd'hui. À part Tony. Alors, j'aimerais vous dire qu'en fait, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 73, verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. » La parole de Dieu, et Dieu, en fait, par sa parole, parce qu'on lui fait confiance, va conduire nos vies. C'est ce que je crois. Et c'est une bénédiction. Ce n'est pas une prison. C'est un chemin qui nous amène. Vous savez où est-ce qu'il nous amène, ce chemin ? Vers la gloire. Celui qui suit son propre chemin, je ne suis pas sûr qu'il va vers la gloire. Il va vers l'avilissement de ses passions meurtrières. Parce qu'il y a un monstre en nous. Regardez ce qui se passe autour de nous. Elle va nous donner aussi de l'assurance dans l'épreuve. Psaume 18, 37. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Est-ce qu'il n'y a pas des moments difficiles dans la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se pose des questions ? Comment on va s'en sortir ? Comment on va faire ? Bien là, on s'appuie sur celui qu'on ne voit pas, celui que peut-être qu'on ne sent pas, celui peut-être qu'on n'entend pas avec cette oreille-là, mais qui parle. Et puis on lui fait confiance. Et j'aimerais vous dire, étonnamment, ça marche. On est encore là. On est encore là. Je pourrais vous témoigner, je suis encore là. C'est un miracle. Pas parce que je suis le plus fort, mais parce que par la grâce de Dieu, j'ai compris et je veux continuer d'écouter et de lui faire confiance et de le laisser conduire, diriger mes pas, purifier mon sentier. Donc il faut qu'on s'arrête parce que qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Il y a même des moments extrêmes dans la vie. Psaume 23, verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Vous savez, quand on croit en Dieu, on prend conscience qu'il est avec nous. On réalise qu'il est avec nous et on le laisse ouvrir, fermer, protéger. Et on ne craint pas le mal. Il est là, le mal. Mais on a une protection. On a le Seigneur avec nous. Hein ? Son bâton et sa houlette me rassurent. Il y aura le psalmiste un peu plus loin. Donc la foi en Dieu, ce n'est pas de croire dans des doux rêves, mais c'est de croire dans ce que Dieu nous a dit à travers des hommes saints. Mais ces hommes, sachez qu'ils ont été inspirés par Dieu pour nous parler. De Timothée 3, 16, 2 Pierre 1, 21. C'est pas, les hommes n'ont pas juste écrit des choses comme ça. Ah ben tiens, on va écrire quelque chose. Non, non. Ils ont écrit ce que Dieu voulait communiquer à l'homme. Et souvent, au prix de leur vie, et de grandes. Ils ne sont pas devenus, comment dire, souvent on dit, ouais, ils sont enrichis, c'est des gourous. Non, non. Tous les apôtres sont morts martyrs pour dire que Christ était mort et ressuscité. Et qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est la vérité, hein, pour nous encourager à en croire en lui. Donc, pour conclure, j'aimerais vous dire combien c'est nécessaire de connaître sa Bible. Savoir qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a offert par sa venue, sa mort, sa résurrection. Avoir ce cadre de référence éternel pour nous aider à avancer jusqu'à la fin auprès de notre Dieu. N'est-ce pas ? Donc, en tant que croyant, en tant que chrétien, on est encouragé, je veux vous exhorter à grandir dans votre foi, à faire des choix par la foi, en vous appuyant sur le fait que Dieu existe, que Dieu parle et vous parle, et on s'appuie sur ce qu'il a dit. Et on teste sa parole. Et je conclurai avec ce verset. Verset 1 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai une ferme assurance que ce que Dieu dit et ce que j'espère et ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir et il va l'accomplir dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je contrôle tout de ma vie. Je marche par la foi. Mais j'ai cette espérance, j'ai cette assurance que ce qu'il va dire. Et cette assurance, parce que je crois Dieu, la fin du verset nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que je crois en Dieu, que je marche par la foi, je deviens, si vous voulez, le catalyseur, la démonstration que ce Dieu invisible est bien réel. Il prend soin de moi. Et il me fait traverser des vallées difficiles. Il me secourt, il me relève, il est patient, il est bon, il est gracieux, il est amour. Donc, voilà, je voulais vous communiquer, vous encourager, nous encourager à réaliser que la foi, c'est pas... On en a tous une, mais on a besoin d'en prendre soin, on a besoin de la nourrir, on a besoin de la renouveler, on a besoin de la... Ensemble aussi, je pense, et je conclurai avec ça, c'est que le fait qu'on la confronte, qu'on la vit ensemble, qu'on grandit ensemble, qu'on ait des exemples les uns pour les autres, qu'on ait des défis les uns pour les autres, d'apprendre à se supporter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de recevoir par la foi aussi l'amour et l'édification les uns des autres. C'est merveilleux, le corps de Christ. C'est un bouillon de culture pour notre foi. Et c'est là qu'elle va s'édifier, c'est là qu'elle va se construire. Et c'est parce qu'elle est bien construite dans la famille qu'on a cette assurance que quand on va à l'extérieur, on a des choses à dire, on a des choses à apporter, on a un message. On sait ce qu'on croit, pourquoi on le croit. Et on sait que ça marche. Et on en a une démonstration. Et alors, on ne vient pas avec arrogance, nous on est supérieurs, nous on a tout compris, on va tout vous expliquer. Non, mais avec douceur, on répond de l'espérance qui est en nous, de la vie qui est en nous, de la force qui est en nous, de Christ qui vit en nous, par la foi. Donc voilà, on va continuer sur ce chemin de la foi et je veux vous encourager à prendre soin de votre foi, à la nourrir, à la cultiver, à relever les défis de la foi. C'est-à-dire que on entend des choses. Et bien maintenant, c'est l'application, c'est l'obéissance. C'est un acte de foi, de croire Dieu plutôt que moi, mes idées, mes désirs, mes passions. Je vais croire Dieu. Et vous allez être étonnés. Étonnés de voir que Dieu donne la paix alors qu'il n'y a rien qui pourrait la donner. Étonnés de voir que Dieu donne la joie alors qu'aujourd'hui, pour avoir la joie, il faut faire beaucoup de choses. Hein, il faut prendre beaucoup de choses. Parce que sinon, on ne peut pas faire une fête sans alcool, sans... Hein, c'est un peu d'herbe, sans tout ça, aujourd'hui. Tristement. C'est juste la réalité. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis, c'est dans ce livre que notre foi s'appuie. C'est dans la personne de Jésus-Christ. Et dans son œuvre, dans son amour, dans son salut et dans sa grâce. Que Dieu vous bénisse.